La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet.
Chers amis auditeurs de RCN, bonjour. Bonjour à Mariam qui nous accompagne avec son sourire de nouveau aujourd'hui. Bonjour aux techniciens, son, à qui cette émission donne fin, mais enfin c'était prévu Pierre. Je ne sais pas si toi tu auras faim après l'émission, mais voilà. Je vous rappelle que la cuisine buissonnière, c'est tous les mardis de midi à midi et demi, sur 90.7 en modulation de fréquence, ou sur www.rcn-radio.org, si vous n'êtes pas dans le réseau d'audition de Nancy. Merci aux auditeurs du bout du monde qui nous écoutent en Océanie, à Madagascar et en République démocratique du Congo. J'ai eu d'ailleurs des retours la semaine dernière. Ils étaient surpris d'avoir une jeune femme dans la mission, qui était très agréable.
Ouais, c'est parfait.
J'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient avoir des recettes particulières de me le signaler sur ma page Facebook Cuisine à moi ou bien sur la page podcast de l'émission Cuisine buissonnière sur le site de RCN, donc www.rcn-radio.org. Et vous pouvez aussi me joindre sur clcv.saquet@gmail.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pomme de terre, puis vous aurez la recette de l'andouillette de Troyes au gratin et la sauce César. Nous aurons ensuite une petite pause musicale de Modern Love de David Bowie. Et pour finir, vous aurez une recette de rillettes de maquereau, celle de ma galette aux amandes et clémentines, puis celle d'un fondant au citron. Avec RCN, le son de la différence.
Midi, midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN.
Alors, comme je vous le disais, nous allons parler aujourd'hui de pommes de terre. Le nombre de variétés de pommes de terre est considérable, il en existe au moins 3 000, la plupart n'étant cependant pas utilisées pour l'alimentation.
D'accord.
Plus de 100 variétés sont produites en France chaque année sur différents terroirs. Quand on dit qu'il y en a la plupart d'utilisées pour l'alimentation, c'est qu'il y a aussi de la pomme de terre qui est faite pour nourrir les animaux.
Ok.
Alors, le mode de culture permet de distinguer deux catégories, les pommes de terre précoces ou primeurs, cultivées en France dans les régions à hiver doux, notamment les côtes de Bretagne et d'Aquitaine, ou le littoral méditerranéen. Plantées en hiver, elles sont récoltées 3 mois plus tard, souvent avant d'avoir atteint même leur maturité. Pommes de terre dites donc nouvelles, dont la peau n'est pas encore entièrement formée. Tu en manges de ça ?
Oui, j'en mange.
C'est bon ?
Oui, c'est bon.
Et puis il y a les pommes de terre de conservation ou tardives qui sont plantées en avril-mai et qui sont récoltées 4 à 5 mois plus tard, produites un petit peu partout en France, notamment dans le Nord. Une autre distinction peut se faire en fonction de la consistance de la chair, donc on dit des pommes de terre à chair ferme, à grains fins, de forme généralement longue, qui tiennent bien à la cuisson et sont appréciées pour leur qualité gustative, par exemple la charlotte, la rate amandine. Les pommes de terre à grains moins fins, plus riches en fécule, dont la variété la plus connue est la binge.
Okay.
Ces pommes de terre sont utilisées pour la confection de purées ou de frites et pour la fabrication des produits transformés, chips, croquettes, frites surgelées, etc.
Parfait. Ça me donne faim tout ça.
Oh, t'aimes bien les pommes de terre.
Ah, j'aime trop.
On n'oubliera pas qu'une bonne partie de la production est destinée à la féculerie. On utilise bien sûr les variétés les plus riches en fécule. En principe, ce sont les pommes de terre tardives, les plus connues étant la Capta Vandel, d'origine danoise.
C'est quoi la Capta Vandel?
C'est ça, c'est une pomme de terre d'origine danoise.
D'accord.
Qui est faite principalement pour la féculerie.
Ok.
Alors, j'ai tiré la majorité de toutes les pommes de terre là, qu'on a. Il y en a un paquet. Et on a... on parlera, il y a la gata, l'amandine, la belle de Fontenay. Ça, c'est des mots qui évoquent le marché, quoi. Hein.
Ouais.
Mais il y a des pommes de terre qui sont régionales. La BF15, la Binge, la Charlotte, la Chérie. Ah, j'adore la Chérie. Elle est super bonne, la Chérie. Je ne sais pas si c'est quelque chose de sentimental, mais enfin, il y a la Francine.
Ouais.
Et puis, alors, il y a la Francine, mais il y a surtout pour moi aussi, la fin de siècle.
Ouais.
Moi, j'ai passé 25 ans en Bretagne, dans le Trigor. Et alors, donc, la fin de siècle, elle est très appréciée dans le Trigor, où elle est considérée comme la crème de la crème des patates.
Ah ouais.
Elle est par contre, elle est la plupart du temps cultivée et vendue au noir, c'est-à-dire que sa production n'est plus considérée comme suffisamment rentable.
Ah mince.
Ouais.
Ouais,
Mais quand on en trouve de la, sur le marché de la fin de siècle, ah, quelle joie.
Ah bah oui.
Et puis, alors, il y a la rate, hein. Il y a la rate,
ouais.
Il y a la Roseval. Et puis, je ne sais pas si j'en ai encore sélectionné d'autres. Donc, je crois, voilà, c'est tout. Alors,
il y en a déjà beaucoup.
Hein. Bah, ça en fait beaucoup.
Ah ouais.
Et moi, j'ai sélectionné que les pommes de terre qu'on trouve en France. Hein, parce que, franchement, c'est... Voilà. Alors, je vais parler maintenant de la cuisson des pommes de terre. Il y a des erreurs qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut faire. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, pourquoi il faut laver les pommes de terre avant cuisson ?
Pourquoi ?
Ben voilà, je vais répondre. Les pommes de terre font partie des légumes les plus traités pendant leur culture.
Mm-hmm.
Les laver et les peler avant la cuisson est donc primordial pour éliminer les produits phytosanitaires.
Et qu'est-ce que c'est les produits ?
Ben c'est les produits qu'on met pour les protéger ou pour les faire grossir, grandir, comme on veut, quoi.
D'accord, hein ? Ok.
Si vous choisissez des pommes de terre bio, il faut bien les laver pour enlever les résidus de terre,
mm-hmm.
mais laisser leur peau puisqu'elles n'ont pas été traitées. L'avantage réside dans le fait qu'elle contient de l'acide chlorogénique. C'est un antioxydant intéressant pour la santé.
Ok.
Voilà. Alors maintenant, pourquoi il faut faire tremper les pommes de terre dans l'eau avant de les frire ?
Pourquoi ?
Haha, voilà.
Mystère.
Les faire tremper diminue la quantité d'amidon.
Mm-hmm.
On voit bien quand on met des pommes de terre à tremper que l'eau se brouille,
ouais.
Elle devient brune,
oui,
elle devient comme un brouillard.
Ouais.
Le résultat, c'est qu'elles colleront moins entre elles pendant la cuisson. Par contre, il faut bien les sécher avant de les cuire.
Oui, bien sûr.
Bon à savoir, cette étape n'est pas nécessaire pour les pommes de terre que l'on cuit à la vapeur. On n'a pas besoin de les faire tremper.
Ouais.
Notez par ailleurs que la friture n'est pas le mode de cuisson le plus sain pour vos pommes de terre, et n'importe quel autre aliment d'ailleurs, en consommation plaisir occasionnelle, cela ne pose pas de problème. En revanche, mieux vaut éviter de manger des aliments frits
régulièrement.
À titre d'exemple, une étude de 2014 a montré que les personnes qui consommaient de la friture plusieurs fois par semaine avaient plus de risques de souffrir d'obésité viscérale et d'hypertension. Récemment, une étude chinoise a prouvé que la consommation régulière d'aliments frits entraîne un risque accru de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux graves.
Ah ouais.
Mieux vaut donc manger avec modération les aliments frits. Il y a une troisième erreur possible. Il ne faut pas choisir de mauvaises huiles.
Pourquoi ?
Certaines huiles ne résistent pas à la chaleur. Il faut donc les réserver à une utilisation froide et assaisonnement. Notamment l'huile d'olive, très fragile, qui tolère moins les hautes températures, et puis les huiles de noix et de colza.
Ouais.
Celles-ci n'y résistent pas du tout. Et
mince.
Les oméga-3 qu'elles contiennent sont totalement dégradées.
Ok. Donc il faut privilégier quelle huile ?
Alors pour faire frire vos pommes de terre à la poêle ou à la friteuse, préférez l'huile d'arachide, qui présente une grande résistance à la chaleur.
Et c'est disponible dans les supermarchés ?
Ah oui, absolument.
Ok.
Bien sûr. L'huile d'arachide, t'en trouves partout. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important. Quand on veut cuire les pommes de terre à l'eau, eh bien, il ne faut pas mettre trop d'eau. Pendant la cuisson à l'eau, les nutriments et les vitamines de la pomme de terre vont s'échapper dans l'eau.
Mm-hmm.
Comment faire ?
Ah ouais, comment ?
Alors, que ce soit dans une casserole ou au four à micro-ondes, ne faites pas baigner les pommes de terre dans une trop grande quantité d'eau pour limiter les pertes de nutriments.
D'accord.
Mieux, si vos pommes de terre sont bio, faites-les cuire. Bio et bon, c'était presque... Hein, c'est ça.
Oui, c'est... ça se ressemble un petit peu.
Faites-les cuire avec la peau. Celle-ci retiendra les nutriments de la pomme de terre dans sa chair.
Ok.
Et il est bon de savoir que la cuisson à l'eau, mieux que la cuisson à l'eau, la cuisson à la vapeur permet à la pomme de terre de conserver l'intégralité de ses qualités nutritives.
Mm-hmm.
C'est ce que recommandent tous les spécialistes.
D'accord.
Puis alors, il y a un truc qui est bien particulier. Moi, ça me met un petit peu en colère quand les gens ont cuit des pommes de terre et puis ils ont cuit des pommes de terre sautées.
Ah ouais.
Et puis, ils vont les réchauffer.
Mais qui fait ça ?
Y a des gens qui réchauffent des pommes de terre qui ont déjà été sautées. Si vous réchauffez des pommes de terre déjà sautées ou frites, elles risquent de se ramollir en purée ou d'être sèches. Surtout si elles sont frites. Mieux vaut éviter cette pratique pour des raisons gustatives,
ouais.
Même si on peut éventuellement les réchauffer à la poêle.
D'accord. Donc on peut toujours les réchauffer à la poêle.
Pour réchauffer des pommes de terre qui ont été cuites à l'eau ou à la vapeur, faites-les sauter à la poêle. C'est la meilleure façon d'obtenir un résultat correct au goût. Mmh. On peut aussi les réchauffer au micro-ondes en les coupant en petits morceaux pour que le réchauffage soit plus facile et plus uniforme et plus rapide.
Ok.
Et puis, la dernière erreur qu'il ne faut surtout pas faire, je pense que tu penses que, effectivement, il y en a une.
Oui, il y en a une.
Ne pas cuisiner les pommes de terre germées.
Ok. Pourquoi ça ?
Si les pommes de terre ont germé ou qu'elles présentent des taches vertes, il ne faut pas les consommer car elles sont toxiques.
Elles sont
cela,
pas bonnes.
Cela indique en effet qu'elles ont fabriqué de la solanine. C'est vert.
Ouais.
La solanine est un composé chimique qui peut être responsable d'intoxication alimentaire s'il est consommé en grande quantité. Alors, dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à jeter les pommes de terre ou alors les utiliser pour alimenter votre compost, ou encore mieux, bah, vous les replanter si vous avez un jardin pour cultiver vos propres pommes de terre.
Ouais.
Alors pour éviter qu'elles germent, pensez à les conserver dans un endroit frais, à l'abri de la lumière.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors Mariam, je crois que tu as des questions à me poser.
Oui, j'ai plein de questions à te poser. Alors Christian, quel est le plat le plus difficile que tu as pu faire?
Ça me fait bien rire ça.
Ouais.
Non seulement j'ai eu des difficultés à le faire, mais il m'arrive aussi encore quand je le fais, d'avoir des problèmes. C'est une question de coup de main, ça. Voilà. C'est la charlotte au sabayon à la pistache.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, c'est une charlotte, c'est un gâteau qu'on fait avec des biscuits à la cuillère. Et puis, dedans, eh ben, on garnit. Alors, il y a des garnitures différentes. Okay. La charlotte au sabayon à la pistache, c'est une invention de ma part.
Ah, oh, c'est génial.
La problématique, c'est pour faire le sabayon.
Ouais.
Un coup, j'aurais su bien mal le sabayon. Mm-hmm. Le sabayon, c'est un mélange avec de l'œuf. Hein.
Ouais.
Et puis, y a des fois, ça ne marche pas. Quoi. C'est comme ça.
Oui, c'est comme ça.
Alors, c'est suivant la façon, peut-être qu'on s'est levé du mauvais pied.
Peut-être.
Ou, voilà, ou on a mal quelque part. Voilà.
Ouais. D'accord. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des ingrédients spécifiques que tu utilises dans les plats congolais que tu fais?
Alors... dans la cuisine congolaise, on travaille beaucoup avec de l'huile de palme, et puis des feuilles de manioc, des feuilles de manioc et de la farine de manioc.
D'accord.
Voilà. C'est une majorité de...
De manioc,
Ouais.
Ok. Voilà. Une dernière question. Quel est le plat que tu conseillerais à tes auditeurs qui nous écoutent?
Alors, le plat français ou africain?
Français et africain, les deux.
Écoute, j'invite tous les auditeurs, quand je donne des recettes d'escargots, qu'ils essayent de manger ces escargots. Il y a des gens qui n'aiment pas les escargots parce qu'ils les ont toujours dans la tête.
Cet a priori.
L'animal qui glisse, là, qui nourrit son pied pour pouvoir glisser dessus. Mais il y a des gens qui, partout dans le monde entier, qui ne mangent pas d'escargots parce que ils ont ça. Surtout que nous, ici en France, on a des petits escargots. Hein, c'est des escargots qui font 25, 30 grammes maximum, 40 grammes même des fois dans le gros Bourgogne. Alors que, par exemple, en Afrique, il y a des escargots qui font 400 grammes, 500 grammes.
Ah ouais?
Oui, il y a un escargot qu'on consomme quand même en boîte, c'est la catine. La plupart du temps, c'est un poisson. C'est un escargot qui vient de Chine, catine, il y en a beaucoup. Mais il y a des acatines aussi en Afrique. Et il y a beaucoup de gens qui consomment des escargots en Afrique, mais des gros escargots.
D'accord. Et c'est apprécié.
Ah oui, ça c'est vraiment très bon. Oui, je croyais que tu voulais me demander aussi pour des plats congolais, mais bon, si la prochaine fois, peut-être.
La prochaine fois.
Voilà. Donc maintenant, il faudra l'enlever. Hein.
Midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN. Christian Saquet.
Alors si tu veux bien, maintenant, on va parler de... On va te donner une recette.
Ouais.
Ça sera l'andouillette en gratin. Donc, il faudra pour 4 personnes 4 andouillettes, c'est-à-dire une andouillette par personne de 3.
Mmh. Hein.
500 g de champignons de Paris, 700 g d'oignons jaunes, 30 g de beurre, 15 cl de vin blanc sec, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 2 feuilles de laurier, de la fleur de sel, du poivre du moulin et puis une pincée de sel fin.
Ok.
Alors, on va commencer par éplucher les oignons et les émincer. On va aussi éplucher les champignons, couper les pièteux, puis les hacher grossièrement. Pour rappel, chaque fois, je le dis, les champignons de Paris ne se lavent pas.
Ah ouais?
Bah oui, sinon ils deviennent des éponges.
D'accord.
Faites caraméliser dans une poêle vos oignons dans le beurre avec le laurier. Salez modérément avec le sel fin et poivré. Ajoutez les andouillettes et le vin blanc. Laissez réduire le vin quasiment à sec, à feu réduit et en retournant délicatement et régulièrement les andouillettes.
Ok.
Mettez votre four en préchauffage à 180 degrés. Dans un plat à gratin, disposez vos andouillettes, puis recouvrez-les des oignons. Dans la poêle de cuisson des oignons, faites revenir rapidement les champignons hachés. Poivrez, puis ajoutez de la crème fraîche. Mélangez et versez sur les oignons et les andouillettes. Enfournez pour 30 minutes de cuisson. À la sortie du four, saupoudrez de fleurs de sel et servez bien chaud. On peut servir avec ce plat en accompagnement des tagliatelles. Mm-hmm. Fraîches, si on peut, c'est bien.
Ouais, c'est le mieux.
Et puis, le vin blanc sec frais peut accompagner ce plat avec délices.
Midi, midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN. Christian Saquet.
Alors, il m'arrive souvent qu'on me demande la recette pour faire la sauce César.
Ouais.
Alors, il y a la sauce César et puis il y a la vinaigrette appelée César. Mm-hmm. Alors, c'est une création, ce qu'il faut savoir, c'est une création culinaire d'origine italienne qui a gagné en popularité dans le monde entier, y compris en France. Elle doit son nom au chef italien César Cardini, qui l'a inventé en 1924 dans son restaurant à Tijuana, au Mexique, en raison d'une pénurie d'ingrédients.
Okay.
Il y a toujours des erreurs comme ça.
Ça fait l'histoire.
Depuis, cette sauce est devenue un accompagnement incontournable des salades, en particulier de la salade César. Je vous propose une version rapide pour réaliser cette sauce, mais il existe d'autres versions plus longues.
Okay.
Alors, il faudra deux jaunes d'œufs, 15 g de moutarde de Dijon, 10 g de parmesan, plus 2 citrons jaunes, une gousse d'ail, 20 filets d'anchois, 30 g de thon à l'huile, 30 cl d'huile d'olive, 20 cl d'huile de tournesol.
Ok.
Alors, vous allez commencer par mélanger, à l'aide d'un mixeur plongeant, tous les ingrédients de la sauce, sauf les huiles.
Les mettre à part.
À part. Ensuite, versez l'huile d'olive et l'huile de tournesol en continuant de mixer jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse. On met doucement au fur et à mesure.
Ok.
Quand on arrive presque à la fin, si la consistance est trop épaisse, eh bien on ajoute un petit peu d'eau et on remixe, toujours bien remué.
D'accord.
La sauce César est polyvalente et peut être utilisée de plusieurs manières. La salade César, la façon la plus traditionnelle de savourer la sauce César est de l'associer à une salade composée de laitue romaine, de croûtons, de parmesan et de poulet grillé.
Oui.
En accompagnement, elle peut également être utilisée comme trempette pour les légumes frais ou des bâtonnets de pain.
Oui.
Et puis, on peut aussi l'utiliser en condiment pour les sandwichs, les hamburgers, les wraps ou ajouter une touche de saveur unique.
Midi, midi 30. La cuisine buissonnière RCN.
Je vais
Christian
vous proposer
Saquet.
Maintenant des rillettes de maquereau. Il vous faudra 170 g de maquereau au naturel en boîte, un avocat mûr, un demi-citron jaune ou un citron vert selon votre goût, et puis une mandarine non traitée, un oignon rouge, un quart de bouquet de coriandre ou une cuillère bombée de coriandre séchée. On va ouvrir la boîte de maquereau, on va les émietter finement avec une fourchette.
Ouais.
On va couper l'avocat en deux, on va récupérer la chair. On va éplucher l'oignon et on va le ciseler finement.
Okay.
Dans un saladier, on va écraser grossièrement la chair de l'avocat et surtout le citronner. Ajouter le maquereau, le jus et le zeste de la mandarine, l'oignon et la coriandre. Ajuster l'assaisonnement et bien mélanger le tout. Mettez la préparation dans un récipient. Filmé avec un film alimentaire et réservé au réfrigérateur. Alors, il faut déguster ça de préférence après une bonne nuit de repos, en étalant sur des tranches de pain de campagne ou avec du pain à graines.
Okay.
C'est une base à laquelle vous pouvez apporter plein d'ajouts, comme du poivron rouge ou du poivron vert, coupé le plus finement possible. Vous pouvez aussi ajouter du cornichon coupé, des capres et même des anchois coupés menus.
Ah ouais.
Laissez votre imagination s'exprimer, mais expérimentez avant de la faire pour une réception.
Ouais.
Bon, ben, je pense qu'on arrive en fin d'émission. Et ben, je vais vous dire à tous bientôt. Et merci Mariam de
merci
ta présence.
À toi.
Voilà.